Chapitre 13. Rencontres inattendues. Élevée à la façon indépendante des jeunes américaines, Miss Rosie Wilcox avait appris de bonne heure à ne compter que sur elle-même dans beaucoup de circonstances de la vie. Elle tenait de son père une extraordinaire énergie. Très sportive, elle savait conduire une auto en quatrième vitesse, tenir la barre d'un yacht, et elle n'avait pas 17 ans qu'elle avait déjà fait 3 excursions en avion. C'était aussi une jeune fille pratique, qui, bien qu'elle n'eût que 23 ans, possédait déjà le sens des affaires. Sans en rien dire à son père, elle avait gagné 10 000 $ en spéculant sur les pétroles avec les économies de sa tirelire, et elle lisait les cours de la bourse avec autant de sagacité qu'un vieux financier. À la voir, on n'eût jamais deviné son véritable caractère. Ses cheveux d'un blond vaporeux, coupés très courts, encadraient un visage frais et rose d'une douceur presque enfantine. Ses grands yeux d'un bleu de myosotis reflétaient l'innocence et l'ignorance des luttes cruelles de la vie, et quand on la voyait pour la première fois, ses longues mains blanches et frêles, sa taille onduleuse et souple, donnaient tout de suite l'idée d'une faiblesse et d'une fragilité bien féminine. Mais si on résistait à quelques-uns de ses caprices, si on s'opposait à l'une de ses volontés, cette physionomie si bénévole, si séduisante, se transformait. Ses yeux bleus lançaient des flammes, un pli dur barrait son front, et on comprenait qu'il n'eût pas été prudent de résister à cette volonté tenace et presque virile. Ce qui l'avait séduite chez Martial, c'est qu'il possédait précisément les qualités qui lui manquaient. Aussi brave et aussi énergique qu'elle l'était elle-même, il avait en plus cette culture supérieure, cette courtoisie raffinée, qui est l'apanage des vieilles civilisations. Rencontrer dans le même homme un héros de la Grande Guerre, en même temps qu'un artiste glorieux, sinon génial, ça avait été pour elle un émerveillement, et tout de suite, la rude descendante des Yankees s'était, pour ainsi dire, complétée et s'était comprise. Martial et Rosie s'aimaient follement, et jamais la moindre discussion ne s'était élevée entre eux. Ils comptaient l'un sur l'autre d'une façon absolue, et chacun d'eux avait conscience qu'il ne pourrait avoir d'autre amour dans toute son existence. Aussi, quand Martial avait déclaré qu'il allait se mettre à la recherche du père de Rosie, celle-ci avait-elle trouvé la chose toute naturelle. Bien plus, elle avait insisté pour l'accompagner, et il avait eu besoin de toute son éloquence, de toute sa force de persuasion pour l'en dissuader. Et si je ne reviens plus, lui avait-il dit, qui donc ira à ma recherche? Cet argument l'avait convaincu. C'est juste, avait-elle dit, je ferai comme vous voulez. Et elle avait déjà pris toutes les dispositions nécessaires pour organiser une expédition dont elle prendrait le commandement, dans le cas où Martial ne serait pas de retour, une fois expirée la date de 3 mois qu'il avait fixée. Rosie, cependant, ne demeurait pas inactive. Installée dans une villa de la banlieue de Mexico, elle multipliait les démarches près des hauts fonctionnaires, courait les ministères et les bureaux, mais partout elle se heurtait à une mauvaise volonté évidente. On opposait à ses réclamations véhémentes la force de l'inertie. C'est que depuis que l'ingénieur Wilcox avait obtenu la concession des terrains miniers de la vallée du désespoir, le gouvernement avait changé 2 ou 3 fois. Ce qui était maintenant au pouvoir faisait la sourde oreille. On faisait 1000 politesses à la jeune fille, on lui promettait tout ce qu'elle voulait, elle recevait même des invitations pour toutes les soirées officielles, mais en somme, elle n'arrivait à aucun résultat pratique. Il y avait d'ailleurs à cela une excellente raison. Bentley avait à Mexico 2 ou 3 correspondants grassement payés et qui, sans savoir même au juste de quoi il s'agissait, s'arrangeait de façon à paralyser tous les efforts de la jeune fille. Cette situation eût pu se prolonger indéfiniment. Rosie, après avoir pris, comme elle le faisait chaque matin, une douche glacée, terminait sa toilette avec l'aide d'une petite indienne nommée Lola, qu'elle avait prise comme femme de chambre, quand Miss Cecilia, la vieille gouvernante qui l'avait élevée, pénétra d'un air effaré dans la salle de bain. « Qu'y a-t-il donc ?» demanda la jeune fille. « Des nouvelles, Miss Rosie, et de bonnes nouvelles !» balbutia la vieille fille qui paraissait tout émue. « Votre père, Monsieur Medley est là, qui vous demande. » Rosie ne prit que le temps de jeter un peignoir sur ses épaules et descendit au petit salon, simplement meublé de sièges de rotin et orné de plantes vertes où elle recevait ses rares visiteurs. Bentley alla au-devant de la jeune fille et lui tendit la main avec une singulière affectation de cordialité et de franchise. Le maître de la vallée était complètement transformé. Le bandit au masque de métal était revêtu d'un complet, d'une coupe savante, rasé de frais, et ses yeux étaient protégés par de larges lunettes aux branches d'or. Il était irréprochablement ganté, et il avait tout à fait l'aspect, du moins à première vue, d'un véritable gentleman. « Miss Rosie, déclara-t-il, je suis heureux de vous annoncer que vous touchez à la fin de vos ennuis. » L'exploitation est en plein rapport. Votre père se porte admirablement et vous attend. Nous avons installé là-bas des habitations très confortables. D'ailleurs, je crois qu'il compte revenir à Mexico à la fin de l'année, dès qu'il aura réglé certains détails. Malgré la satisfaction que lui causaient ces bonnes nouvelles, Rosie ressentait je ne sais quelle méfiance instinctive. « Et pourquoi mon père n'est-il pas venu lui-même » répliqua-t-elle en fixant sur l'aventurier le regard perçant de ses grands yeux bleus. « Vous n'y pensez pas, Miss Rosie, » répondit Bentley tranquillement. « Vous ignorez que nous récoltons d'énormes quantités d'or. Avec le personnel d'Indiens et de Métis plus ou moins recommandable que nous employons, la présence d'un chef, d'un homme plein d'autorité, comme l'est votre père, est indispensable. Oui, balbutia la jeune fille, je me rends très bien compte. Et elle ajouta, secrètement troublée, mais pourquoi donc mon père est-il resté si longtemps sans me donner de ses nouvelles? Pourquoi n'a-t-il pas répondu à mes lettres? Il y avait dans la voix de Miss Rosie une sorte d'angoisse. Bentley eut un sourire accompagné d'un léger haussement d'épaules. « Voyons, Miss, » fit-il, « vous êtes une Américaine, vous savez ce que sont les affaires. Croyez-vous que votre père ait pu faire ce qu'il ait voulu dans un horrible désert, à des centaines de lieues des villes et des chemins de fer ? Nous avons lutté farouchement, et j'ajouterai que je me suis donné de tout cœur à l'œuvre commune. Et maintenant, nous avons triomphé. Vous serez la plus riche héritière de l'Amérique. » Rosie, pourtant, n'était pas entièrement convaincue. Elle demeurait silencieuse. « Mais, enfin, s'écria-t-elle, pourquoi suis-je restée sans nouvelles ?» Bentley comprit qu'il fallait insister. Permettez-moi de vous dire, Miss Rosie, que vous raisonnez comme une jeune fille qui a toujours habité les villes. Vous semblez ignorer que le désert est sans cesse parcouru par des bandes de desperados qui assassinent tous ceux qu'ils rencontrent. 10 fois, 20 fois, nous avons envoyé des courriers, et aucun d'entre eux n'est revenu. Malgré ces excellentes raisons-là, la jeune fille n'était pas entièrement convaincue. Mais pourquoi, objecta-t-elle, mon père ne m'a-t-il pas fait parvenir ces lettres par les navires qui ont apporté le matériel de San Francisco? C'est juste, répliqua Bentley imperturbablement, car il avait préparé d'avance avec grand soin tout ce qu'il dirait. J'ai oublié de vous dire que la dernière goélette qui a fait escale dans notre petit port avait reçu de votre père un lot assez important de poudre d'or et de minerai d'argent, et depuis nous n'avons jamais revu ni le navire ni son capitaine. Rosie était à peu près persuadée. C'est alors que Bentley tira de sa poche une lettre fermée qu'il remit à la jeune fille. « Voici d'ailleurs, fit-il, un mot que votre père m'a chargé de vous remettre. » D'une main brûlante d'impatience, Rosie déchira l'enveloppe et elle le lut. « Ma chère enfant, nous avons complètement réussi. Tu me ferais un grand plaisir en venant nous rejoindre, ne fût-ce que pour voir par toi-même les merveilles que nous avons réussi à créer dans cette région désolée. Mon excellent ami et collaborateur Bentley t'accompagnera, et je suis sûr qu'avec lui tu n'auras rien à craindre. » Cette fois, Rosie était convaincue, elle avait reconnu l'écriture de son père. « Mon Dieu, que je suis heureuse !» s'écria-t-elle. Et elle porta la main à son cœur, rougissant et pâlissant tour à tour, si émue qu'elle demeurait incapable de prononcer une parole. Bentley la considérait avec un flegme sarcastique, enchanté de voir que sa combinaison réussissait de point en point. Une ancienne lettre de M. Wilcox, que le bandit avait interceptée puis habilement maquillée, avait produit ce merveilleux résultat. « Quand faudra-t-il partir ?» demanda la jeune fille. Elle ajouta, « Oh, Monsieur Bentley, je suis si contente. Oh, je comprends qu'on meure de joie. » « Nous partirons dès que vous le voudrez, » répliqua l'aventurier avec un calme parfait. « Je crois entre nous que le plus tôt sera le mieux. »« Mais tout de suite !» s'écria fougueusement la jeune fille, et elle appuya sur un timbre électrique. Cécilia puis Lola apparurent. « Vite, mais mal !» commanda-t-elle, « que tout soit prêt dans une demi-heure !» Oh, « vous avez le temps, » déclara Bentley, qui ne se départait pas de son sang-froid. « Le rapide ne part qu'à 11 heures. » En une minute, toute la villa fut en révolution. Miss Cecilia et la camériste indienne, auxquelles était venu se joindre le cuisinier chinois, traînaient des malles et des valises et y empilaient au hasard tout ce qui leur tombait sous la main. C'était un véritable affolement. Miss Rosie, pendant ce temps, était allée chercher à la cave une bouteille d'authentique champagne français qu'elle offrit à Bentley. Les coupes de cristal furent remplies. « Je bois la santé de mon admirable maître, l'ingénieur Wilcox !» s'écria l'aventurier. Miss Rosie léseva en même temps sa coupe, mais au moment où elle la choquait contre celle que lui tendait Bentley, le bandit, jusque-là si calme, la laissa échapper de ses doigts d'un geste plein de nervosité. La coupe se brisa en 1000 miettes sur le guéridon de marbre et le liquide se répandit à terre. « Mauvais présage !» murmura la jeune fille, profondément troublée. Bentley lui-même était devenu pâle en dépit de tout son aplomb. « Ce simple accident, Miss Rosie, bruya-t-il, je vous demande pardon de ma maladresse. » Tous deux se regardèrent interdits, et Rosie eut en ce moment l'intuition de quelque péril inconnu, mais ce ne fut qu'un éclair. Bentley était redevenu souriant. Rosie avait pris une autre coupe sur le dressoir et l'avait remplie. Tous deux burent, mais cette fois, sans porter la santé de personne. Rosie venait de reposer sa coupe vide sur le guéridon, lorsque, tout à coup, elle tressaillit, devint blême, et se leva brusquement. « Ah, mon Dieu, balbutia-t-elle, je suis si troublée, je ne vous ai pas encore dit. »«
Je vous écoute, » grommela Bentley, devenu très rouge.
« J'aurais dû commencer par là, » reprit-elle, « je crois que je suis folle. Je ne vous ai pas dit que mon fiancé, M. Martial Norbert, est parti depuis plusieurs semaines à la recherche de mon père.
J'ignorais.
Vous ne l'avez donc pas vu ?
Cela n'a rien d'extraordinaire, reprit Bentley avec aplomb. Il y a près d'un mois que je suis en route, et probablement que, pendant mon absence, M. Norbert a pu atteindre tranquillement nos établissements. Vous le trouverez, en même temps que votre père. Nous avons fait route en sens inverse. Il n'y a rien de surprenant à ce que nous ne nous soyons pas rencontrés. »
Miss Rosie respira. « Dire que je n'avais pas pensé à cela, » murmura-t-elle. « Ah, je suis maintenant complètement rassurée. » Les coupes furent de nouveau remplies de champagne. « À propos, » demanda tout à coup Rosie, « pourrais-je emmener avec moi Miss Cecilia, ma vieille gouvernante ?»«
Ah, impossible !» déclara froidement l'aventurier. « Votre père m'a fait des recommandations formelles à ce sujet. Miss Cecilia ne résisterait pas à la traversée du désert. » Miss Rosie ne répondit rien, mais en dépit du bonheur qu'elle éprouvait d'apprendre que son père était encore vivant, elle se sentait le cœur serré. « L'heure passe !» déclara Bentley en tirant de sa poche un gros chronomètre. « Heureusement que je suis pourvu d'une auto !» La jeune fille laissa Bentley en compagnie d'une seconde bouteille de champagne pendant qu'elle allait veiller aux derniers préparatifs. Ce départ s'effectua avec la rapidité d'une fuite. Après de hâtifs adieux à sa vieille et fidèle gouvernante, Rosie se trouva 10 minutes plus tard, presque sans savoir comment cela s'était fait, dans la grande gare de Mexico. Bentley la fit monter dans un wagon de luxe, le train démarra, et les Maisons Blanches, l'ancienne capitale de Fernand Cortés, avaient depuis longtemps disparu à l'horizon, que Rosie n'était pas encore remise de l'étrange bousculade qui avait précédé ce voyage et qui ressemblait presque à un enlèvement. La jeune fille demeura longtemps pensive, secrètement angoissée, pendant qu'elle regardait fuir d'un œil distrait les magnifiques paysages qui entourent Mexico et où alternent les montagnes majestueuses et les plaines verdoyantes couvertes des plus riches cultures du monde. Il y avait une heure à peine que Rosie était partie, et Miss Cecilia, aidée de la petite indienne, s'occupait en maugréant à remettre un peu d'ordre dans les chambres bouleversées, lorsque la cloche de la porte d'entrée de la villa résonna bruyamment. La vieille gouvernante, croyant que c'était sa maîtresse qui revenait, se précipita à la fenêtre, mais elle fut fort étonnée en voyant le domestique chinois ouvrir la grille à deux personnages d'aspect peu rassurant. L'un était un Indien, vêtu d'un vieux veston de cuir, d'un pantalon de toile bleue et coiffé d'un feutre pelé et orné de petites plaques d'argent. L'autre, avec son sombrero, pareil à ceux des cow-boys, ses hautes bottes et sa face fiévreuse, n'avait pas la mine guère plus rassurante.
« Mais ce sont des bandits, de vrais coureurs de désert !» balbutia la vieille dame épouvantée. « Mais je me demande pourquoi cet imbécile de Chinois a ouvert la grille !»
Une carte que vint lui remettre le Chinois mit fin à ses craintes.
« Seigneur Dieu !» s'écria-t-elle, « c'est M. Martial Norbert !» Et Miss Rosie vient de partir. Oh, quel terrible contretemps !»
Mais, bégaya Martial, étourdi comme s'il avait reçu un coup de massue sur le crâne, avec qui est-elle partie? Parbleu, avec M. Bentley, l'homme de confiance de M. Wilcox. Il n'y a pas une heure qu'ils ont quitté la villa pour aller prendre le rapide. Martial était tellement accablé par cette affreuse révélation qu'il demeura sans mot dire. Et Miss Cecilia continua nerveusement. Monsieur Wilcox est en excellente santé. La mine produit des millions. Tout va bien. Et Miss Rossi est partie très contente, d'autant plus qu'elle comptait bien vous trouver là-bas, comme Monsieur Bentley le lui avait promis. Martial était désespéré, anéanti. Ses efforts surhumains aboutissaient à la déconvenue la plus amère. Il arracha brusquement le col de sa chemise de grosse toile, il étouffait. Il voyait par la pensée Rosie prisonnière dans la ville maudite, surveillée par les dogues entièrement à la discrétion de Bentley. Il n'eut même pas la force et le courage de dire la vérité à la vieille gouvernante, qui, très étonnée, attendait qu'il s'expliquât. « C'est bien, » murmura-t-il d'une voix étranglée, à peine distincte. « Je vais retourner immédiatement à la concession. Il s'est produit sans doute un malentendu. Je croyais trouver ici Miss Rosie. Mais il s'en est fallu de bien peu. » Mais M. Bentley paraissait terriblement pressé. Martial balbutia de vagues phrases de politesse et sortit suivi de Chanito. Après tant de dures épreuves, il était à bout d'énergie. Le maître et le serviteur vaguèrent au hasard pendant plus de 2 heures par les magnifiques rues de la ville nouvelle. En dépit de son amour pour Rosie, en dépit de sa tenace volonté de sa résolution bien arrêtée de ne pas abandonner la lutte, notre héros avait beaucoup de peine à se remettre du coup qu'il frappait. Il n'était pas heureusement de ceux qui se laissent glisser au désespoir et s'abandonnent au découragement. La bataille était engagée, il fallait vaincre. « Du moins, grommela-t-il, la situation est nette, j'aime mieux cela. La question est posée de façon très claire. Il faut que je délivre Rosie et son père, et que j'ai la peau de Bentley. » Et il se tournant vers Chanito, dont la mine lugubre l'amusa, « Mon vieux, lui dit-il familièrement, il faut pas s'en faire, c'est nous qui aurons le dessus, c'est une chose certaine. » L'Indien sourit. Avec la merveilleuse intuition des races primitives, il avait deviné, à peu de choses près, ce qui se passait dans l'esprit de Martial. Il se trouvait en ce moment face d'un luxueux établissement de bains. « Entrons ici, » ordonna Martial, « il faut que nous soyons présentables pour mener à bien certaines démarches. » Chanito suivit son maître, son padrone, sans la moindre objection. 1 heure après, tous deux reparurent, reposés, rafraîchis, rasés avec soin, et, pour nous servir d'une expression américaine, rasés sous la peau. On eût dit qu'ils étaient rajeunis. Une visite dans un grand magasin de confection compléta cette métamorphose. Chanito, malgré ses protestations, dut accepter un feutre neuf, des bottes de cuir fauve et une superbe ceinture rouge. Il s'admira avec complaisance dans les glaces du magasin. J'ai tout à fait l'air d'un haciendrero, déclara-t-il orgueilleusement. Martial, pour son compte, avait fait emplette d'un complet de couleur sobre, mais d'une coupe parfaite. Son élégance discrète ne rappelait plus en rien le coureur du désert, l'esclave du maître de la vallée. Maintenant, déclara-t-il, je me sens un autre homme. Je possède toujours heureusement le paquet de banque-notes que j'avais en partant d'ici. J'ai d'ailleurs un compte dans la succursale d'une grande banque française. Nous allons nous mettre en campagne. Je te donne ma parole que j'aurai la peau de ce grenat de Bentley, ou qu'il aura la mienne. Le maître et le serviteur déjeunèrent dans un excellent restaurant français, où Chanito, pour la première fois de sa vie, fit connaissance avec un certain vin blanc mousseux, dont il devint tout de suite un fervent enthousiaste. Un cigare mexicain, dont certaines variétés sont de beaucoup supérieures aux plus somptueux régalias, compléta ce festin de Lucullus. On partit, l'addition royalement soldée. Chanito, fier de son costume neuf, faisait sonner ses talons sur l'asphalte des trottoirs. Il avait retroussé cavalièrement son feutre à la façon des mousquetaires. La nuit venue, de toutes parts, les globes électriques illuminaient les façades étincelantes des magasins. Il passait devant un luxueux café dont la terrasse était ombragée de palmiers, lorsque Martial s'entendit tout à coup ailer par une voix joyeuse. Il se retourna, surpris. Il se trouva en face de son ami Fontenac, qui dégustait nonchalamment un cocktail, tout en parcourant les journaux français. Les deux amis s'embrassèrent avec effusion. Fontenac lui aussi était transformé. Rien ne rappelait plus en lui le rude prospecteur à la barbe hirsute, aux mains calleuses, que nous avons vu au début de ce récit. « Ah, ça !» fit-il en riant. « Les diables de la vallée du désespoir ne t'ont donc pas tordu le cou ?»« Non, » répondit Martial, « mais il s'en est pas fallu de beaucoup. » Et il mit succinctement son ami au courant de ses surprenantes aventures. « T'as eu vraiment de la chance !» déclara Fontenac. « T'aurais bien pu de jamais revenir !» Et toi ? Oh, je suis pas à plaindre. Le filon que j'avais découvert était encore plus riche que je ne le pensais. À l'heure actuelle, j'ai près de 500 000 dollars, bien à moi, déposés dans les coffres de la banque mexicaine, et ma nouvelle fortune va me permettre de te donner un sérieux coup de main. Comment cela ? Ben, j'ai déjà une bonne idée en ce qui te concerne. Mais par exemple, il ne faut pas que tu restes à Mexico. Je ne t'ai pas encore dit qu'aujourd'hui même, tout à fait indirectement d'ailleurs, j'ai eu de tes nouvelles. En demeurant ici, tu cours un grand danger. Martial tombait des nues. Ça, par exemple, s'écria-t-il, c'est un peu fort. Je ne comprends pas quel danger. Mais tu es tout simplement sous le coup d'une plainte pour tentative de meurtre, déposé contre toi par ce fameux Bentley dont tu viens de me narrer les exploits. Martial était indigné. Le misérable, murmura-t-il, mais cela tient pas debout. Et d'où tiens-tu ce renseignement? Du directeur de la police, lui-même, en compagnie duquel je fais presque tous les soirs ma partie de bridge. Tu n'ignores pas que dans ce beau pays du Mexique, les plus hauts fonctionnaires acceptent, sans se faire prier, les cadeaux et les pots de vin. Bentley, que je n'aurais jamais cru être le même personnage que le maître de la vallée, a profité de son voyage à Mexico pour distribuer quelques chèques aux personnages influents avec lesquels il est d'ailleurs en excellents termes. Avec sa malice diabolique, il a facilement deviné que puisque tu avais réussi à lui échapper, tu reviendrais directement à Mexico. C'est une chance que tu m'aies rencontré. On a ton signalement précis et peut-être ta photographie. 8 jours ne se seraient pas écoulés sans que tu fusses arrêté. Et ici, une accusation de ce genre, quand elle est appuyée par un homme riche, est très grave, et si Bentley pouvait te faire fusiller, je suis certain qu'il n'y manquerait pas. Martial tombait de son haut. « Mais c'est insensé ! » s'écria-t-il. « Mais comment vais-je faire ? Je ne puis pourtant abandonner ni Rosie ni son père. » « Je t'ai dit que j'avais une idée. Si tu m'en crois, dans une heure, nous serons loin de Mexico. Et nous serons arrivés à la vallée du désespoir quand Bentley ne sera pas encore à moitié route. » « Je ne comprends pas. Mais tu n'as décidément pas beaucoup d'imagination. Tu sais pourtant qu'il y a ici un superbe champ d'aviation. » « Ah, tu as raison !» s'écria Martial éperdu. « Seul moyen, partons de suite. Nous n'avons pas le droit de perdre une seule minute. » Accompagné de Chanito, qui les suivait sans rien comprendre, car la conversation que nous venons de rapporter avait eu lieu en français, Martial et Frontenac sautèrent dans un taxi qui les conduisit en quatrième vitesse au champ d'aviation. Après une brève discussion, Frontenac fit emplette d'un superbe biplan entièrement neuf, livré quelques jours auparavant par une grande firme américaine. « Vous ne craignez donc pas de partir ainsi en pleine nuit ?» demanda le directeur du garage, un vieil Espagnol à la mine sévère, que la hâte de Frontenac surprenait beaucoup. « Vous vous exposez à un vil danger. Beaucoup de pilotes ne se risqueraient pas ainsi. » Frontenac sourit et tira de son portefeuille son livret militaire et quelques certificats. « Vous pouvez être rassuré sur mon compte, » déclara-t-il. « Lisez ceci. » Le vieillard s'inclina. Le prestige des héros de la Grande Guerre n'avait en rien diminué dans ce coin du monde. Au bout de 2 heures employées à vérifier le moteur, à embarquer les objets indispensables, armes, vivres, munitions, essence, sans oublier d'excellentes cartes d'état-major, l'appareil se trouva prêt. Frontenac s'installa dans la cabine du pilote, pensant que Martial et Chanito prenaient place dans les fauteuils réservés aux passagers, car l'avion que venaient d'acquérir les deux amis était un appareil de grand luxe. Frontenac était un pilote expérimenté. Après un démarrage savant, l'avion prit de la hauteur et les moteurs commencèrent à donner tout le rendement dont ils étaient capables. La ville de Mexico disparut vers le sud dans une brume de lumière, pendant que grandissait vers l'est la masse imposante de la cordillère. Frontenac consulta ses instruments. Il filait vers la vallée du désespoir à une vitesse moyenne de 200 km à l'heure. Chapitre 14. Le secret de la vallée. Le voyage s'accomplit sans le moindre incident, et le soleil se levait à peine quand l'appareil survola la région voisine de la vallée. Mais pour en trouver l'emplacement précis, les cartes manquaient. Aucun ingénieur officiel, aucun explorateur ne s'était encore aventuré dans ces montagnes désolées. Martial se souvint heureusement du petit port qu'il avait remarqué sur la côte du Pacifique, et il retrouva aussi sans grande peine le cèdre géant sous les racines duquel il avait passé pour s'évader. Grâce à ces 2 points de repère, après quelques tâtonnements, l'atterrissage put avoir lieu dans d'excellentes conditions sur le sable même de la grève. Par mesure de prudence, Martial et Frontenac avaient décidé de laisser l'avion sur le rivage pour qu'il ne pût tomber entre les mains de Bentley si les événements venaient à mal tourner. Chanito, qui, sous aucun prétexte, n'eût voulu mettre les pieds sur la terre hantée par les mauvais esprits, fut préposé à la garde de l'appareil. Avec une cartouche de dynamite dont il s'était pourvu, Martial et Fontenac firent sauter la porte de fer qui fermait le souterrain, et ils pénétrèrent dans la vallée sans avoir rencontré personne. Ils venaient d'arriver près de la maisonnette qui servait d'habitation à l'Irlandais, quand ils le virent paraître lui-même, sans doute attiré par le bruit de l'explosion. Le pauvre Mike semblait vieilli de 10 ans. Ses traits étaient hâves et flétris, et il marchait péniblement en s'appuyant sur un bâton. Il parut très heureux de retrouver son ancien camarade, mais il était si abattu, si déprimé, qu'il n'eut même pas l'idée de demander à Martial comment, après s'être enfui de si dramatique façon, il était de nouveau de retour dans la vallée. « Le maître est parti, balbutia-t-il. Moi, je ne puis plus travailler. Je crois que je vais mourir. Il me semble que j'ai eu du feu dans la poitrine et que l'on me pique les entrailles avec des pointes de fer rouge. » Et il ajouta, en poussant un douloureux soupir, « Ah, si j'avais su, je ne serais jamais venu dans cet endroit. Quel royaume du diable! On m'avait pourtant prévenu. » Martial réconforta l'Irlandais de son mieux. Fontenac, cependant, observait que Mike portait au doigt et au cou des érosions qui ressemblaient à des brûlures et offraient un caractère tout spécial. Fontenac avait fait autrefois une partie de sa médecine et il constatait que les rougeurs qui marbraient l'épiderme de Mike ne décelaient pas une maladie de peau ordinaire. « Il est peut-être atteint de la lèpre, » dit Martial, quand il fut seul avec son ami. L'aviateur secoua la tête. « Non, non, dit-il, c'est pas cela. Si je me trompe pas, c'est quelque chose de plus terrible encore. » Ils avaient laissé l'Irlandais assis à la porte de la maisonnette. Le revolver au poing, ils marchèrent hardiment vers les bâtiments où se trouvait le laboratoire de Bentley. Ils ne rencontrèrent personne. La porte de la palissade était ouverte, et ils purent arriver jusqu'à la pièce du premier étage sans avoir rencontré aucune résistance. Sur la lourde table faite de madriers et malécaries, il n'y avait plus ni poudre d'or ni diamants, mais le grand coffre de métal était toujours à sa place dans un coin. « C'est peut-être là-dedans, dit Fontenac, que nous trouverons le secret du maître de la vallée. » Et avec la lame de son poignard, il enfonça la serrure. « Voilà qui est tout à fait extraordinaire, s'écria-t-il. C'est pas un coffre fort banal. Sais-tu en quoi il est ? Non, je ne puis pas deviner. Il est en plomb. Je ne comprends pas. Eh bien, je crois que je commence à comprendre. » Le couvercle, une fois soulevé, l'intérieur du coffre apparut rempli d'une poudre grise et brillante. Fontenac demeurait silencieux. Les yeux écarquillés de stupeur, il laissa retomber le couvercle qui se referma avec un bruit mat. « Ça, par exemple !» s'exclama-t-il. « C'est fabuleux !»« Tu sais que j'ai été prospecteur assez longtemps pour m'y connaître un peu en fait de métallurgie. Sais-tu ce qu'il y a dans ce coffre ?» Tout bonnement du minerai de radium d'une richesse extraordinaire, tel qu'il n'en existe sans doute pas de pareil dans le monde, il y en a pour plusieurs milliards. Tu entends ? Reprit-il avec une sorte de fièvre d'enthousiasme. Je n'ai pas dit des millions, des milliards. Martial était stupéfait, il croyait rêver.
Tout ce que tu as trouvé de mystérieux dans la vallée, reprit Frontenac, qui instinctivement s'était retiré à quelques mètres du coffre de plomb, s'explique de la façon la plus naturelle. Tu l'as échappé belle, mon pauvre Martial. Tu as travaillé dans une mine de radium. Et la maladie dont souffre le pauvre Mike, ses brûlures qui lui rongent les entrailles, ce n'est pas autre chose que l'empoisonnement dû au terrible rayon. Mike mourra de la même façon que ces deux professeurs du muséum qui ont été victimes de leurs expériences.
Martial était consterné, demeurait sans parole.
Tu t'expliques maintenant pourquoi, reprit l'aviateur, les Espagnols et les Indiens, qui ont les premiers exploité ces mines en cherchant de l'or, se croyaient atteints de la lèpre. Ils étaient simplement intoxiqués par les terribles radiations, et c'est pour cela que ce coquin de Bentley, qui grâce sans doute aux leçons de M. Wilcox savait à quoi s'en tenir, ne se risquait jamais dans la mine qu'avec cette cuirasse doublée de plomb, qui en même temps ajoutait au mystère de sa personnalité et le faisait passer pour un être fantastique.
« Je l'ai échappé belle, » murmura Martial avec une sorte d'épouvante. Cette végétation luxuriante, ces sources empoisonnées, ces reptiles d'une dimension fabuleuse, tout cela s'explique par la présence du radium.
Les deux amis demeurèrent un moment silencieux.
L'univers est encore une chose plus merveilleuse que nous ne pouvons l'imaginer, déclara Frontenac rêveur.
Cette vallée semble un fragment du monde antédiluvien conservé par miracle.
Parbleu, reprit Martial, Bentley pouvait se payer le luxe de rétribuer royalement les malheureux qui l'envoyaient à la mort et qui travaillaient à l'enrichir.
Par exemple, affirma l'aviateur, je jure bien que ce bandit ne profitera pas de ses crimes.
Et d'abord, il faut faire disparaître ce coffre, le cacher de telle façon que Bentley ne le trouve jamais. Ne perdons pas une minute, c'est la première chose que nous devons faire.
Ce n'était pas une chose facile que de transporter cette lourde masse. En sciant le tronc d'un jeune pin, Frontenac improvisa des rouleaux. Avec des planches, il transforma l'escalier en plan incliné et, grâce à de pénibles efforts, le coffre put être descendu au rez-de-chaussée. À l'aide des rouleaux, ils le traînèrent en dehors de la palissade et l'ensevelirent sous un monceau de scories et de déblais provenant de l'exploitation.
« Bentley sera bien attrapé !» s'écria gaiement Frontenac.
« Je lui réserve une autre surprise, » fit Martial, qui ne pouvait pardonner au bandit de l'avoir exposé à la plus terrible des morts. Une fois cet impérial trésor mis en sûreté, les deux amis explorèrent dans leur moindre recoin le laboratoire et les bâtiments qui en dépendaient. Ils découvrirent là de véritables magasins d'une organisation extrêmement pratique. Il y avait des vivres pour plusieurs années, un véritable arsenal avec d'innombrables boîtes de cartouches, un assortiment complet de produits chimiques, de verreries et d'appareils de laboratoire, le tout rangé dans le plus grand ordre et dans un état d'entretien et de propreté parfaite. Mais ce qui fit le plus plaisir à Martial, ce fut de découvrir un second coffre de plomb, mais vide celui-là, exactement pareil à celui qui contenait le radium.
Nous allons faire une bonne blague à Bentley. On va remettre ce coffre-là à la place de l'autre. Nous verrons la tête qu'il fera. Avec beaucoup de peine, les deux amis transportèrent le coffre vide jusqu'à l'endroit qu'avait occupé l'autre. Enfin, après une exploration complète des bâtiments, ils revinrent vers la maisonnette de Mike. Le pauvre Irlandais demeurait toujours à la même place, semblait à l'agonie. Martial lui expliqua de quel mal il souffrait, lui promit de le guérir et lui expliqua l'atroce combinaison de Bentley. Mike, si malade qu'il fût, s'était redressé blême de rage. « La canaille » rugit-il. « Ah, il pouvait m'en donner des sacs de poudre d'or. Mais oh, si vrai que je suis un honnête homme, je lui réglerai son compte. » « Surtout, lui recommanda Martial, quand Bentley va revenir, ne lui dis pas que nous sommes ici. T'as pas besoin de me dire une pareille chose. Tu sais que je suis de tout cœur avec vous deux contre ce misérable assassin. » Deux jours se passèrent. Frontenac et Martial s'étaient installés dans la petite maison de Mike et attendaient l'ennemi. Ils trépidaient d'impatience et ils se demandaient parfois si le rusé bandit n'avait pas emmené Rosie dans quelque coin perdu où il leur serait impossible de la découvrir. Cette crainte était vaine, heureusement. Un matin, Mike monta tout effaré à la chambre qu'occupaient Martial et Frontenac. « Ça y est !» s'écria l'Irlandais avec une sourde fureur. « Le coquin est revenu. Il a avec lui une belle jeune fille, oh, qui doit être cette Miss Rosie dont vous m'avez parlé. Cachez-vous, il ne faut pas qu'il vous surprenne. » « N'aie pas peur, » dit Martial. « C'est nous, en ce moment, qui sommes les maîtres de la vallée. Tu en auras bientôt la preuve. » Les deux amis avaient résolu d'attendre patiemment le moment le plus favorable pour s'emparer du bandit. Leur intention était de le surprendre et de le garrotter sitôt que la nuit serait venue. De la maison de Mike, ils virent Bentley, vêtu d'un costume de sport très élégant, introduire cérémonieusement Miss Rosie dans son habitation. La jeune fille était souriante. « Parbleu !» grommela Frontenac. « Il lui raconte sans doute que son père est à deux pas d'ici. Mais patience, il a compté sans nous. » Bentley avait conduit la jeune fille dans une chambre presque luxueusement meublée, en la priant de prendre un peu de repos avant le déjeuner. Resté seul, il avait gagné en hâte son laboratoire. Son premier mouvement, quand il y fut entré, fut de courir à son coffre. Il fut désagréablement surpris en constatant qu'il n'était pas fermé. Il en souleva le couvercle. Le coffre était vide. Il était dans un état de rage inexprimable. « On m'a volé !» hurla-t-il. « Je suis dépouillé d'une fortune qui fait envie à bien des rois, et ce ne peut être que cet Irlandais sournois qui a fait le coup. » Ivre de rage, il se rua vers la mine, revolver au poing. Il courait de toute la vitesse de ses jambes. « Il doit être parti !» répétait-il en frémissant de colère. « Ce doit être un coup monté, mais il faut quand même que je voie. » Il s'engagea dans l'étroite galerie à l'extrémité de laquelle il apercevait la faible clarté d'une lampe de mineur. « Il est là, Dieu merci » soupira-t-il en essuyant son front mouillé de sueur. « Je vais savoir quelque chose. » Il courut de toute haleine jusqu'au fond de la galerie, mais quand il y arriva, il constata avec fureur que la lampe était accrochée à une des colonnes qui soutenait le boisage et que la galerie était vide. « Ah, la crapule » hurla-t-il. Mais à ce moment, Il reçut sur la tête un formidable coup de pique. C'était Mike qui, tapi dans un angle obscur, l'avait guetté en lui tendant le piège de la lampe allumée. L'Irlandais, qui avait sans doute longuement prémédité sa vengeance, lui lia les pieds et les mains avec de solides cordelettes. Quand Bentley revint à lui, il était ficelé comme un saucisson. Il regarda l'Irlandais d'un air hébété. « Bon vieux, lui dit ce dernier, avec une amère ironie, chacun son tour, tu vas têter un peu de radium. Idiot, imbécile, laisse-moi vivre et je te ferai riche comme Crésus. Oh, ça m'est égal, dit froidement l'Irlandais. Tu veux maintenant me faire des promesses ou des menaces tant que tu voudras, je m'en fiche complètement. » Bentley se débattait, se tordait dans ses liens comme un tigre pris au piège. Mike le traîna dans une espèce de niche obscure, tout au fond de la galerie. « Maintenant, mon vieux, fit l'Irlandais, je vais te faire mes adieux. Je te souhaite bon voyage. » Mike frotta une allumette et se baissa. Et Bentley s'aperçut avec une indicible épouvante que l'Irlandais avait mis le feu à un cordon Bickford qui devait aboutir à quelques cartouches de dynamite. L'Irlandais était parti en sifflotant sans même se retourner. Le misérable Bentley voyait la petite lueur qui rampait lentement dans les ténèbres et qui se rapprochait inexorable comme la mort. Puis il y eut comme un coup de tonnerre sous les voûtes. Sur un large espace, la galerie s'était écroulée, ensevelissant le bandit tout vif dans sa niche de pierre. Mike n'eut rien de plus pressé que d'aller raconter à Martial et à Frontenac la façon dont il s'était vengé de son ennemi. Les deux amis allèrent aussitôt rejoindre Miss Rosie, dont on devine la stupeur et l'indignation, quand elle apprit le rôle odieux qu'avait joué celui qu'elle regardait comme l'homme de confiance de son père. Après ces atroces révélations, Miss Rosie demeurait silencieuse, désespérée. « Alors, murmura-t-elle d'une voix tremblante d'émotion, dois-je croire que mon père est mort, qu'ils l'ont assassiné ?» Martial n'osait lui répondre, et ce fut Frontenac qui prit la parole. « Non, mademoiselle, répondit-il d'un ton plein d'énergie et d'assurance qui donna tout de suite confiance à la jeune fille. Martial sait où est votre père. Si invraisemblable que cela puisse paraître, vous l'aurez retrouvé avant qu'une heure se soit écoulée. Ben, « Comment cela ?» firent à la fois Martial et Rosie avec une surprise qui n'était pas jouée. « Mais réfléchissez un peu, reprit l'aviateur avec le plus grand calme. Miss Rosie ignore que tu sais où se trouve M. Wilcox. On lui expliquera cela tout à l'heure. Grâce à notre avion et avec les explications de Chanito, nous atteindrons tout de suite la vallée en ruine et délivrerons l'ingénieur. » Ce programme fut suivi de point en point. En moins d'une demi-heure, on avait atteint les décombres de la ville ensevelie. On trouva le temple facilement. Quand il eut appris la mort du maître de la vallée, le géant indien, qui montait toujours une garde vigilante dans la crypte, ne fit aucune difficulté à conduire Chanito, qui était d'ailleurs un de ses parents éloignés, jusqu'au caveau, où gisait M. Wilcox sur un tas de paille de maïs à demi pourri. Le père de Rosie, quoiqu'il fût dans un état de faiblesse extrême, expliqua comment Bentley, qui n'était que son employé, s'était emparé traîtreusement d'abord de ses découvertes, puis de sa personne, et comment il l'avait retenu prisonnier en voulant le forcer à lui accorder la main de Rosie, seule héritière de la merveilleuse mine. « J'ai toujours refusé, » déclara l'ingénieur, « car je savais bien qu'une fois que j'aurais consenti, Bentley m'aurait assassiné. » On pouvait lire tout récemment dans les feuilles mondaines cette note suggestive. « Miss Rosie Wilcox, la fille du milliardaire bien connu, propriétaire de la célèbre mine de radium de la vallée du désespoir, vient d'épouser un des as de l'aviation française, qui est en même temps un génial sculpteur, M. Martial Norbert. La cérémonie nuptiale d'un luxe inouï a eu lieu à la cathédrale de Mexico. Le cardinal Pérez a donné la bénédiction nuptiale. Les témoins du marié étaient le marquis de Frontenac, le célèbre explorateur, et le consul de France. Le cacique Chanito, descendant d'une race royale, et le riche industriel bien connu Mike de Mike, étaient les témoins de la mariée. Fin.